Bonjour, bonjour à toutes et bonjour à tous. Aujourd'hui, il est question du coq et de l'ours raconté par Michel Pastoureau dans une émission de Mathilde Wagman, car les animaux aussi ont leur histoire.
L'important, c'est d'avoir un rapport animal avec l'animal. Tout animal a un monde. C'est curieux parce qu'il y a des tas de gens, il y a des tas d'humains qui n'ont pas de monde.
Peu à peu, les cochons retrouvent leur comportement instinctif.
Bête comme
ses pieds.
Oh. C'est toi qui es bête comme tes pieds.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Chaque jour, cette semaine, nous vous proposons de plonger au cœur du royaume animal. Les historiens ont mis du temps à s'intéresser aux animaux. Non qu'ils aient été tout à fait absents de leurs travaux, mais ils apparaissaient à la marge, en notes de bas de page. Ils n'étaient jamais les héros de l'histoire. Michel Pastoureau compte parmi les premiers à s'être réellement penché sur leur sort. Médiéviste, spécialiste de l'histoire de la symbolique occidentale, c'est lui qui nous contera tout au long de cette série les déboires de 8 animaux célèbres choisis parmi ceux qu'il affectionne. De la préhistoire à nos jours, en passant par l'Antiquité et le Moyen-Âge, on traversera les siècles pour se souvenir, par exemple, que l'ours fut le roi avant que le lion ne lui vole la vedette, que le cochon n'a pas toujours été l'objet de notre mépris, qu'il fut un temps où le loup ne nous faisait pas peur et où l'on ne doutait pas de l'existence des licornes. Car oui, les animaux ont aussi leur histoire, c'est elle que nous explorerons avec Michel Pastoureau pour composer ce petit bestiaire radiophonique. Mais pour commencer cette série, c'est d'un oiseau dont nous allons parler. Attribut de certains dieux dans l'Antiquité, tantôt admiré pour son courage, sa virilité, tantôt méprisé pour ses colères ou sa luxure, il est aussi l'un des plus vieux emblèmes de la France. Mais quel drôle d'animal pour un emblème que ce vulgaire oiseau de basse-cour. Cocorico, vous l'aurez compris, c'est du coq dont il sera question aujourd'hui.
Cocorico, le coq a chanté, notre Marseillaise immortelle. Et quand il a battu ses ailes au soleil de la liberté, c'est qu'a compris son vol en sursaut que devant ses veines menaces, le coq lance une vibrante note, son appel à tous les échos. Debout les gars, Cocorico.
Bonjour Michel Pastoureau.
Bonjour.
C'est par un extrait d'une chanson patriotique que l'on ouvre cette émission. Jules Wolf, qui interprète la chanson Cocorico ou l'aigle ou le coq, dans un enregistrement qui date de 1919. Une chanson donc qui date de la Première Guerre mondiale et dont les paroles mettent en scène le vaillant coq français qui résiste à l'aigle allemand. La Première Guerre mondiale, Michel Pastoureau, c'est l'une des périodes pendant laquelle la référence au coq comme emblème national est particulièrement forte.
Oui, c'est un coq patriote qui s'est très bien défendu pendant la Première et la Deuxième Guerre mondiale aussi. Il a été résistant. C'est le plus vieil emblème de la France, en fait, le coq. Et les Troisième et Quatrième Républiques l'ont fréquemment mis sur le devant de la scène. Alors, remontons le cours des siècles et soulignons que à l'origine, cet emblème de la France, c'est en fait un emblème subi, choisi par l'étranger, pourrait-on dire, et non pas un emblème assumé, accepté. Il va falloir du temps, beaucoup de temps, pour qu'il devienne un emblème reconnu en France même.
C'est un jeu de mots qui crée le lien entre la France et le coq.
Oui, c'est un jeu de mots latin dont les Romains sont très friands. C'est le même mot en latin, gallus, qui désigne à la fois le coq et le gaulois. D'où l'assimilation des Gaulois à des coqs. César, par exemple, dans la guerre des Gaules, compare à la façon de combattre des Gaulois à des combats de coqs. Et un peu plus tard, Suétone, pour se moquer de Néron, qui se prétendait un chanteur remarquable, compare le chant de Néron au cri du coq et souligne même que ce cri est tellement épouvantable, celui de Néron, qu'il va réveiller les Gaulois qui vont envahir l'Italie et ainsi de suite. Donc c'est un emblème plutôt dépréciatif que les Romains appliquent à la Gaule, et pendant une bonne partie du Moyen-Âge, il va le rester. Ce sont les ennemis de la France, et spécialement du roi de France, qui associeront les Français, à ce coq. Le basculement se produit à la fin du Moyen-Âge. Pendant les premières guerres entre la France et l'Angleterre, la France et le Saint-Empire romain germanique, c'est encore un oiseau choisi par l'étranger et appliqué au roi de France. Il faut vraiment attendre le XVe siècle, les guerres d'Italie, pour que Charles VII d'abord, puis Charles VIII, Louis XII et surtout François Ier se reconnaissent finalement dans cette image du coq et assument pleinement ce rôle du roi de France, veillant sur ses sujets comme le coq veille sur ses poules. Et alors, vers 1500, la bascule a opéré pleinement et le roi de France, en France même, est devenu le coq, c'est-à-dire le roi des poules. Et c'est Louis XIV, peut-être, qui va consacrer pleinement ce rôle du roi de France. Le coq salue le lever du soleil. Il est un des attributs du soleil, donc le roi soleil, bien sûr, met en avant l'emblème du coq. À Versailles, par exemple, dans la Galerie des Glaces, il demande à ses architectes de créer un ordre architectural nouveau, à côté de l'ordre dorique, corinthien, ionique, etc. Un ordre du coq que l'on voit encore au sommet de certaines colonnes. Il y a une guerre des emblèmes à la fin du règne de Louis XIV entre les différents pays d'Europe occidentale par les pamphlets, par les stamps, par la médaille, et contre le léopard anglais, l'aigle allemande et le lion des Provinces-Unies ou de l'Espagne, on voit le coq gaulois défendant vaillamment la France.
Mais alors, quelles sont les qualités, si je puis dire, du coq qui, dans les deux cas, sont revendiquées ou bien pour critiquer les rois de France ou bien, au contraire, pour les mettre en valeur ?
Si on s'appuie sur les textes antiques, médiévaux, le coq est un animal ambivalent. Alors bien sûr, les rois de France ne prennent que les bons aspects du coq pour vanter cette symbolique politique. Il est courageux, il est vigilant, il veille sur ses poules, il est audacieux, il affronte des animaux plus forts que lui. Une tradition qui remonte très haut veut que les coqs, et spécialement les coqs blancs, fassent peur aux lions eux-mêmes. Et puis, il est généreux, il est partageux. La tradition attribue au coq de partager avec ses poules quand il a trouvé un peu de nourriture. Donc c'est le thème du seigneur, du roi large, du roi qui partage. Et puis, il est fier, il est fertile. Inversement, quand il est pris en mauvaise part, c'est un oiseau qui est libidineux, il est fortement sexuel, il est jaloux.
C'est le roi de la basse-cour.
C'est le roi de la basse-cour, il ne partage pas ses poules avec un autre coq, d'où le thème des combats de coqs, soit réel, soit symbolique. Donc, il est jaloux, il est envieux, il est sexuel. Et puis, il a un côté ridicule. C'est vrai que, comparé à l'aigle germanique ou même au léopard anglais, il a l'air bien faible.
C'est cette dimension ridicule que les rois étrangers, dans les premiers temps du Moyen-Âge, soulignent lorsqu'ils parlent.
Ils la mettent en valeur, oui, bien sûr, cette idée de l'oiseau faible par rapport à d'autres oiseaux, notamment aux oiseaux de proie, d'oiseaux vaniteux et d'oiseaux polygame en quelque sorte. Il lui faut un certain nombre de poules. D'ailleurs, les auteurs en débattent depuis Pline l'Ancien jusqu'à des dates récentes. Combien de poules pour un coq ? Et le nombre varie entre 6 et 12. Mais les rois de France donc ont réussi à évacuer tout cela et assumer cette figure du coq. Et le plus étonnant pour l'historien, c'est que la Révolution française n'est pas partie en guerre contre le coq comme elle était partie en guerre contre tous les emblèmes de l'ancienne monarchie, à commencer par la fleur de lys, bien sûr. Non, sous la Révolution, le coq devient une véritable figure d'État. Il ne représente plus le roi de France, mais le peuple français. Et dans l'espèce de bric-à-brac emblématique et symbolique que la Révolution française a mis sur le devant de la scène, la pique, les faisceaux de lecteurs, le bonnet phrygien, etc., le coq finit par devenir la principale figure. Il prend place sur le grand sceau de la Première République dès 1792, sur les ce qu'on appellerait les papiers en tête, nous, aujourd'hui, et toutes sortes d'autres documents officiels, les assignats, par exemple, c'est une figure d'État, c'est la figure du peuple, c'est la figure de la Révolution en marche et de l'adhésion aux idées nouvelles, à côté de la cocarde ou du futur drapeau tricolore. Ça ne dure pas parce que Bonaparte, en 1804, quand il s'apprête à fonder un nouveau régime, le Premier Empire, il est à la recherche d'un emblème nouveau, il prend conseil, il fait voter autour de lui, certains sont partisans du lion, d'autres de l'éléphant, d'autres même de la fleur de lys, et puis il fait voter le Conseil d'État, et le Conseil d'État souligne que le coq est le plus ancien emblème de la France, donc il faut choisir le coq, mais Bonaparte trouve cet oiseau trop faible, trop ridicule, ça n'est pas possible, et il va abandonner cette figure et prendre au dernier moment, pourrait-on dire, l'aigle qui devient l'oiseau impérial. D'ailleurs, l'aigle est souvent l'oiseau des empires, empire byzantin, empire romain, empire russe, empire autrichien, et donc premier empire napoléonien. Il faut attendre les révolutions de 1830 et surtout de 1848 pour que le coq revienne sur le devant de la scène, incarnant toujours le peuple français vigilant pour défendre ses libertés.
Mais c'est un glissement, là, je voudrais qu'on s'arrête un moment sur ce point. Au XIXe siècle, pour la République, le coq a incarné, et incarne désormais, pardon, le peuple vigilant. On assiste vraiment au fil des siècles, si on s'arrête un peu sur cette symbolique, à un déplacement. À l'origine, le roi, puis la nation, l'État, le peuple. En fait, c'est un symbole polyphonique.
Oui, et ça souligne des problèmes très très importants. Quels sont les rapports entre l'État et la nation, hein? Le coq, on est passé du souverain au peuple, c'est-à-dire de l'État à la nation. En Europe occidentale, il y a des pays dans lesquels la naissance de l'État est bien plus ancienne que celle de la nation. C'est le cas de la France, c'est le cas de l'Angleterre. Et puis, il y a des pays où la naissance de la nation est bien antérieure à celle de l'État. C'est le cas de l'Allemagne ou de l'Italie. D'ailleurs, une des grandes difficultés de l'Union européenne actuelle vient de cet héritage historique, État ou nation. Le coq, lui, a d'abord signifié la personne du roi, puis l'État, puis la nation française, et en ce sens, il s'est compromis avec tous les régimes, mais avec des significations un peu différentes.
Et c'est cette compromission avec tous les régimes qui, selon vous, Michel Pastoureau, en ferait un bel emblème officiel, parce qu'il faut rappeler que, si on l'associe encore aujourd'hui à la nation française, c'est un emblème officieux.
C'est un emblème officieux. D'ailleurs, la France n'a pas d'autre emblème officiel que son drapeau tricolore, défini par l'article 2 de la Constitution de la Ve République, ce qui pose un gros problème du point de vue protocolaire, parce que tous les autres pays de l'Union européenne ont leur drapeau et un ou plusieurs autres emblèmes. Donc, dans les réunions protocolaires, quand on met en scène ces emblèmes, pour la France, il y a un trou, et on le comble en mettant un grand F majuscule ou la carte de France, ce qui est totalement ridicule par rapport à nos voisins. J'ai participé moi-même à une commission chargée de donner un emblème officiel à la France pendant une dizaine d'années auprès de la présidence de la République. Cette commission n'a accouché de rien parce que nos gouvernants, quel que soit leur bord, sont frileux. « Oh non, pas ça, c'est trop connoté comme ci, comme ça, etc. » Moi-même, j'ai milité pour le coq, puisqu'il s'est compromis avec tous les régimes, qu'il est le plus ancien emblème de la France, quand même plus de 2000 ans d'histoire. D'ailleurs, les étrangers pensent que c'est un emblème officiel, alors qu'il n'est qu'officieux. Et quand il est présent sur les maillots des sportifs, qui représentent la France sur les terrains, on peut se demander, est-ce que c'est un emblème national, ou est-ce que c'est le logo d'une entreprise qui fournit en équipement les joueurs qui représentent la France, l'hésitation est permise.
Oui, c'est une autre dimension du coq en France. Hein. Le coq sportif, c'est lié à la marque, si je ne me trompe pas.
À la marque, une marque installée en Champagne qui a fourni des équipements aux équipes de France pendant quelques temps. Si on faisait un sondage, je pense que le coq serait peut-être handicapé par son côté à la fois rural, dans une France qui est majoritairement citadine, sa dimension religieuse, le coq des clochers, le coq de Saint-Pierre, le coq de toutes les églises de France, au fond. Et puis, par rapport à nos voisins qui portent aigle, lion, léopard, évidemment, il a l'air un petit peu faible.
Puisque le coq ne remplit pas tout à fait le rôle d'emblème de la France aujourd'hui, détachons-nous un peu maintenant de cette dimension de l'animal, parce que tout de même, le coq ne se réduit pas à son rôle dans l'histoire de France. Dans l'Antiquité, Michel Pastoureau, c'est un animal plutôt valorisé. Il joue par exemple un rôle important dans la mythologie romaine.
Oui, c'est un animal que l'Antiquité grecque et romaine valorise beaucoup. C'est un attribut de plusieurs divinités, Artémis, c'est-à-dire Diane pour les Romains, Apollon, son frère, Arès, Mars pour les Romains, le dieu de la guerre, et quelques autres. C'est un oiseau solaire, son chant salue le lever du soleil. C'est un oiseau vigilant. Il y a pas mal d'histoires d'ailleurs dans la mythologie grecque, par exemple, lorsque Arès, le dieu de la guerre, va rencontrer sa maîtresse, Aphrodite, la plus belle des déesses, qui est l'épouse du dieu du feu, Héphaïstos, il charge l'un de ses compagnons de surveiller si Héphaïstos ne va pas revenir. Et puis un jour, le compagnon s'est endormi, il s'appelle Électrion. Arès et Aphrodite sont surpris par le mari jaloux, et de colère, donc, le dieu Arès change son compagnon Électrion en coq.
C'est un animal qui intervient beaucoup dans les métamorphoses.
Il intervient dans les métamorphoses, mais il intervient surtout dans la divination. Les Romains confient au coq le choix de certaines décisions extrêmement importantes, notamment concernant la guerre. Soit on interprète son chant ou son cri, soit on interprète la façon dont il bat des ailes, soit surtout on pratique la divination par les grains de céréales. On dessine au sol une figure divisée en un certain nombre de cases, en général 24, représentant chacune une des lettres de l'alphabet. On place des grains dessus et on observe dans quel ordre le coq ou le poulet va manger ses grains, et on en tire donc un ordre des lettres que l'on interprète. Est-ce que l'on doit lancer la bataille ou pas, déclarer la guerre, faire ceci ou faire cela, ce qui fait dire à Pline, qui a une admiration pour le coq dans son histoire naturelle, il est très bavard sur cet oiseau, les coqs sont les maîtres du monde, c'est-à-dire c'est par eux qu'on prend toutes les décisions.
Oui, Pline l'Ancien, hein, donc dans son texte L'Histoire naturelle, c'est un texte qui date du 1er siècle, et c'est un texte tout à fait important qu'on retrouvera beaucoup pendant toute cette série, Michel Pastoureau.
Oui, pour l'historien des animaux, c'est un texte fondateur, c'est une autorité pour le Moyen-Âge et même encore pour l'époque moderne, presque aussi importante que la Bible d'un côté, Aristote de l'autre. La troisième autorité, c'est l'Histoire naturelle de Pline, une encyclopédie qui en fait est faite d'extraits d'auteurs. Pline est un compilateur et c'est un ennemi de toutes les nouveautés. Mais sur les animaux, il peut être très bavard et il est très admiratif du coq, comme le sont d'ailleurs la plupart des auteurs antiques. En fait, ce sont les auteurs chrétiens qui sont plus divisés et qui soulignent un certain nombre d'aspects négatifs du coq, notamment ceux que l'on a évoqués. Et surtout, ils évoquent ce passage du Nouveau Testament, le reniement de Saint-Pierre.
Je vous propose, si vous le voulez bien, de vous lire un extrait de ce passage, hein, tel que raconté par Marc, pour que nos auditeurs l'aient bien en tête. Donc, le reniement de Pierre. « Comme Pierre était en bas dans la cour, arrive une des servantes du grand prêtre. Voyant Pierre qui se chauffait, elle le dévisagea et dit « Toi aussi, tu étais avec Jésus. » Mais Pierre nia en disant « Je ne sais pas, je ne comprends pas ce que tu dis. » Puis il se retira dehors vers le vestibule et un coq chanta. La servante, l'ayant vu, recommença à dire aux assistants « Celui-là en est ». Mais de nouveau, Pierre niait. Peu après, à leur tour, les assistants disaient à Pierre « Vraiment, tu en es, et d'ailleurs, tu es galiléen ». Mais il se mit à jurer avec force imprécation « Je ne connais pas cet homme dont vous parlez ». Et aussitôt, pour la seconde fois, un coq chanta. Quel est le sens que l'on peut donner à ce chant du coq, Michel Pastoureau, dans cet épisode?
Il est ambigu, ou plutôt ambivalent. C'est-à-dire, on peut le prendre en bonne part et souligner que le coupable, c'est Pierre, ça n'est pas le coq. Et le chant du coq, au fond, fait prendre conscience à Pierre de sa faute, de son péché, et l'invite à faire récipiscence. Ou bien, on peut associer le coq au mauvais comportement de Pierre, et les auteurs du Moyen-Âge seront partagés. En tout cas, le coq va devenir, dans l'iconographie, très tôt, dès l'époque paléochrétienne, un des attributs de Saint-Pierre, à côté de la clé, qui est son autre attribut. Et quand on a un coq installé au sommet du clocher d'une église, au début, on peut hésiter. Est-ce que c'est le coq de Saint-Pierre ou est-ce que c'est le coq vigilant qui surveille les alentours? Les plus anciens exemples sont antérieurs à l'an 1000. On les trouve en Italie du Nord dès le Xe siècle. Malheureusement, ce sont toujours sur des églises dédiées à Saint-Pierre. Donc, on ne sait pas très bien. Puis, par la suite, ce sont d'autres églises, et ça devient un phénomène général. Le coq installé au sommet des clochers concerne presque toutes les églises d'Occident à partir des 12e, 13e siècles. C'est un coq vigilant qui surveille les alentours, qui salue le lever du soleil, qui réveille les dormeurs, qui les invite à la prière, mais qui aussi éloigne les forces du mal et fait peur aux démons et à toutes les créatures du diable. Donc c'est un coq tout à fait bénéfique que ce coq installé au sommet des clochers.
Finalement, cet épisode du reniement de Pierre ne lui a pas trop nui, si je vous comprends bien, Michel Pastoureau.
Non, pas du tout. L'oiseau est quand même plus positif que négatif dans les traditions occidentales, donc on en tire toujours un certain bénéfice, et avoir pour attribut un coq, c'est valorisant.
Michel Pastoureau, vous avez énormément travaillé sur les bestiaires du Moyen-Âge. Est-ce que le coq est un animal présent ?
On retrouve dans les bestiaires et dans les encyclopédies du Moyen-Âge cette même double symbolique que nous avons évoquée, tantôt négative, tantôt positive, avec toujours les mêmes idées. Il est courageux, il est vigilant, il est généreux, il est fier, il est bavard. Certains auteurs admirent son chant, d'autres soulignent que ce chant, c'est en fait un cri, plus qu'un chant. Il est fécond, fertile, mais il est aussi polygame, jaloux, luxurieux, coléreux, vaniteux. On trouve toutes sortes d'adjectifs pour le qualifier. Et puis, il y a une idée qui revient assez souvent. Quand il est vieux, le coq ne chante plus, ne sait plus chanter, perd la mémoire et se met à pondre des œufs. Petit héros.
Ah, voilà la poule qui intervient dans l'histoire du coq. Le coq devient poule, si je vous comprends bien.
Voilà, il ne sait plus ce qu'il fait, donc il pond des œufs. Et ces œufs sont très dangereux s'ils sont couvés par un crapaud. Parce que une fois éclos, cela donne naissance à un être monstrueux, le basilic, qui est un coq à queue de serpent, dont le corps est rempli de venin, dont le regard tue celui qui est regardé et dont la crête n'est pas rouge mais entièrement blanche. Ça ne concerne pas tous les coqs, mais certains coqs devenus trop vieux. Et on a quelques histoires pour la fin du Moyen-Âge surtout, où ici ou là, à Bâle par exemple, au XVe siècle, où l'on a vu un basilic redoutable qu'on a eu beaucoup de mal à mettre à mort. Mais ça a aussi un bon côté puisque ce coq est devenu un des attributs de la ville de Bâle à l'époque moderne.
Est-ce que la dimension prophétique du coq que vous évoquiez tout à l'heure, Michel Pastoureau, en parlant de l'Antiquité, un animal de divination, se retrouve à travers les siècles au-delà de l'Antiquité ?
Peu. C'est une dimension qui est relativement discrète. Le christianisme est passé par là, qui a horreur de la divination et donc qui a lutté contre toutes les pratiques divinatoires associées à des superstitions. D'ailleurs, c'était déjà ce que disait Cicéron au 1er siècle avant notre ère, et Cicéron n'est pas chrétien. Mais dans les campagnes, bien sûr, ça continue fort longtemps, et comme tous les oiseaux, le coq peut être associé à des superstitions. Donc on continue d'interpréter son comportement et surtout son cri, à quel moment il a chanté, combien de fois. On interprète aussi les syllabes. L'Antiquité entend coco-coco, le Moyen-Âge aussi. Et puis cocorico se met en place en France lentement au XVIIe et XVIIIe siècle. Mais c'est français parce que les Allemands entendent kikiriki, par exemple. Donc autour de ce folklore rural, il y a en effet des traditions et des superstitions qui ont la vie longue. Mais elles ne tuent pas l'aspect positif du coq. Entendre le chant du coq, nous disent beaucoup d'auteurs encore en pleine époque moderne, voire au XIXe siècle, c'est réjouissant, c'est le village, c'est la paroisse, c'est la campagne. Il est, on peut le dire, jusqu'à des dates récentes, en France en tout cas, avec la vache, l'autre attribut de la campagne.
Oui, aujourd'hui, à l'époque contemporaine, c'est surtout comme animal de la ferme que le coq est évoqué. On peut penser à tous ces livres pour enfants dans lesquels le coq est toujours immanquablement présent parmi les animaux des imagiers.
Oui, il est l'animal de la ferme par excellence, pourrait-on dire, en tout cas celui de la basse-cour, qui trône bien sûr sur son fumier, mais c'est le roi de la basse-cour, il défend les poules. On a même vu des coqs défendre les oies et d'autres volailles contre des prédateurs, contre des fouines, des putois, et même contre le renard. La tradition veut que le coq n'hésite pas à affronter des animaux plus forts que lui, mais l'histoire naturelle et le comportement du coq confirment pleinement cette assertion.
C'est sur une évocation du coq de la ferme aux États-Unis que nous nous quittons, le Little Red Rooster, le petit coq rouge, chanté par le musicien de blues Howlin' Wolf. Merci beaucoup Michel Pastoureau, je renvoie nos auditeurs à vos écrits sur le coq, notamment votre livre Bestiaire du Moyen-Âge, paru au Seuil, votre ouvrage sur les emblèmes de la France aux éditions Bonneton, ainsi que l'article consacré au coq gaulois, paru dans le troisième tome de la Somme, dirigé par Pierre Nora, Les lieux de mémoire.
L'important, c'est d'avoir un rapport animal avec l'animal. Tout animal a un monde. C'est curieux parce qu'il y a des tas de gens, il y a des tas d'humains qui n'ont pas de monde. Peu à peu, les cochons retrouvent leur comportement instinctif.
Bête comme...
ses pieds.
C'est toi qui es bête comme tes pieds.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Chaque jour, cette semaine, Michel Pastoureau, médiéviste, spécialiste de l'histoire de la symbolique occidentale, nous conte le parcours à travers les siècles d'un animal célèbre. Après avoir parlé du coq, place maintenant à un quadrupède. Pendant longtemps, en Europe, le roi des animaux ne fut pas le lion. Un autre animal était l'objet de toutes les admirations. Vénéré et respecté par les guerriers du Nord, il fut même longtemps l'objet d'un culte. Au Moyen-Âge, pourtant, la bête majestueuse est ridiculisée, humiliée. Elle conquiert de nouveau le cœur des hommes au XXe siècle, mais sous une forme un peu particulière, celle d'une peluche. Passer du statut de roi de la forêt à celui de simple doudou, voilà qui constitue un singulier parcours. C'est celui que nous allons retracer. Tout de suite, portrait de l'ours.
Bonsoir les enfants. Notre nounours est bien joyeux ce soir.
Patron, nous allons nous amuser. Je connais des devinettes très difficiles que Nicolas et Pimprenel ne connaissent pas et qu'ils ne trouveront jamais.
Il me tarde de voir ça.
C'est moi qui vais être le plus fort ce soir. Et hop, mon échelle.
Bonjour Michel Pastoureau.
Bonjour.
Nos auditeurs et vous-même, je l'ai vu, avez reconnu cet extrait de Bonne nuit les petits, un épisode diffusé le 27 février 1964 sur les antennes de la radio-télévision française. Le héros de cette série populaire, c'est Nounours, un ours en peluche qui veille sur les petits Nicolas et Pimprenel et leur conte des histoires pour que ces petits puissent s'endormir. Voilà un exemple, Michel Pastoureau, parmi tant d'autres, de ce qu'est l'ours au XXe siècle, une figure affectueuse, bienveillante.
Et un animal qui n'est pas du tout comme les autres. Et pour l'historien qui parcourt les siècles, c'est une idée qui revient constamment.
Alors justement, parcourons les siècles et commençons par le début, Michel Pastoureau. Ce qui est bien avec l'ours, c'est qu'on peut remonter très très loin. On peut parler de la place de l'ours dans la préhistoire. Les préhistoriens se livrent à des débats violents sur la question de savoir si l'ours fut oui ou non, l'objet d'un culte? Quelle est votre position sur la question?
Oui, je suis historien, je ne suis pas préhistorien. Je lis les travaux de mes collègues et je suis frappé par la façon dont ce dossier est devenu passionnel et passionné, les comportements très agressifs, culte de l'ours ou pas culte de l'ours au paléolithique de la part de l'homme de Néandertal et peut-être même de l'homme de Cro-Magnon. Les positions sont très tranchées, les opinions presque définitives. Moi, je suis partisan du culte de l'ours parce que, étant historien, je travaille sur des époques qui se situent un peu en aval de la préhistoire. Et là, manifestement, il y a un peu partout dans l'hémisphère nord des cultes de l'ours. Donc, j'invite les préhistoriens à descendre un peu le cours du temps et à s'interroger. Ces cultes que l'on trouve à des dates très anciennes, au néolithique ou dans l'antiquité la plus reculée, ils viennent bien de quelque part. Et à mon avis, ils viennent de la préhistoire. Et les témoignages qui poussent en ce sens, ne serait-ce que dans les grottes du Paléolithique, montrent que l'ours a peut-être été en effet le premier dieu, en quelque sorte.
Vous parlez des grottes, Michel Pastoureau. Dans le livre que vous avez consacré à l'ours, vous vous arrêtez un long moment sur l'une d'entre elles, la grotte Chauvet, découverte en 1994 en Ardèche, et dont certains disent qu'elle est par excellence la grotte de l'ours. Pourquoi cela ?
Oui, un préhistorien a même dit qu'elle sentait l'ours plus que toutes les autres. Ça n'est pas parce qu'il y a sur les parois plus de représentations d'ours qu'ailleurs. D'ailleurs, l'ours n'est pas la vedette du bestiaire peint du Paléolithique. Mammouths, bisons, chevaux et même rhinocéros laineux sont plus fréquents que lui. Mais il est représenté toujours à des endroits spécifiques et puis surtout, il laisse au sol un très très grand nombre d'ossements dans certaines cavernes. Il est même parfois le seul à laisser des ossements qui montrent que l'ours a fréquenté les mêmes cavernes que l'être humain. Peut-être pas au même moment, mais en tout cas, ils ont le même habitat. Et puis dans la grotte Chauvet, il y a vers le fond cette fameuse salle aux ours où l'on voit au centre de la pièce, sur une espèce de promontoire rocheux, un crâne d'ours entouré au sol en demi-cercle de 12 autres crânes d'ours, un dispositif qui implique des rituels de type cultuel et religieux. Ça semble absolument indéniable.
Oui, c'est une forme d'hôtel, en quelque
sorte.
C'est
une forme d'hôtel, et ça implique une sorte de religion de l'ours. On trouve ailleurs, d'ailleurs, d'autres témoignages qui vont dans ce sens. Peintures, ossements, traces diverses. À Montespan, une statue d'ours sur laquelle, qui n'a pas sa tête, mais sur laquelle on mettait sans doute la peau et la tête d'un ours récemment abattu, un rituel lié à la chasse probablement, autour de cette statue, et même en Périgord, au Régourdou, une tombe supposée commune entre un homme de Néandertal et un ours. Donc moi je suis partisan de cette idée qu'il y a culte de l'ours. Les ours du Paléolithique sont de deux sortes. Il y a simultanément l'ours des cavernes qui s'est éteint à des dates qu'on peut situer vers 12 000, 10 000 avant le temps présent, et l'ours brun qui a traversé les millénaires, qui peut être de très grande taille. Hein. Les individus records peuvent dépasser 3 mètres de hauteur et avoisiner une tonne. Donc c'est un être redoutable. Tous ne sont pas de cette taille, bien sûr, mais quand il est très grand, il est vraiment impressionnant. Sa taille, sa ressemblance avec l'être humain, sa ressemblance externe, l'ours peut se mettre debout, peut saisir des objets avec les mains et s'en servir. L'ours sait sauter, danser, nager, grimper aux arbres. Et puis surtout, sur le terroir européen, c'est l'animal le plus fort aux époques historiques. D'où l'admiration envers cet animal de la part des chasseurs, bien sûr, mais aussi des guerriers. Aucun autre animal ne peut être prédateur d'un ours. C'est pour ça d'ailleurs que pendant des siècles, des millénaires même, l'ours a été en Europe le roi des animaux.
Alors roi des animaux, Michel Pastoureau, est-ce qu'on peut faire un lien entre le culte de l'ours que nous avons décrit à la préhistoire et la présence de l'animal dans les mythologies anciennes? Par exemple, dans la mythologie grecque, hein, on peut citer l'histoire de la nymphe Calypso qui est transformée par la déesse Artémis en ours femelle.
Oui, il y a beaucoup d'histoires de métamorphose d'êtres humains en ours, mâle ou femelle, dans la mythologie grecque, soulignant cette parenté anatomique et presque biologique entre l'homme et l'ours. Il y a également des histoires qui vont avoir la vie longue, l'idée que les ours mâles sont attirés par les jeunes filles et les jeunes femmes. On peut citer pour exemple dans la mythologie grecque le cas de Paris, le fils de Priam, celui à cause duquel va être provoquée la guerre de Troie. Priam, c'est un enfant qui, quand il est né, était né sous de mauvais auspices. Sa mère a vu en rêve une torche enflammée qui allait détruire la ville de Troie, sa mère Hécube. Donc son père Priam a demandé à un chasseur de conduire le nouveau-né dans la forêt et de l'égorger, mais le chasseur n'a pas eu le courage de le faire. Il a abandonné le bébé au cœur de la forêt, et là il a été recueilli par une ours qui l'a nourri, qui l'a élevé. Donc Paris est, en raison de cela, moitié homme, moitié ours. Et c'est lui qui, plus tard, après son fameux jugement, va enlever la belle Hélène, la plus belle femme du monde, et provoquer ainsi la guerre de Troie, puis la ruine de Troie.
Dans le monde païen, vous l'avez dit tout à l'heure, l'ours est un objet d'admiration chez les guerriers germains. Par exemple, je crois, au début du millénaire, l'ours est pour les jeunes guerriers l'incarnation de la force. Se mesurer à lui est une sorte d'étape obligée.
C'est un rite de passage à l'âge adulte pour les jeunes guerriers, pour les adolescents. Affronter un ours en combat singulier, au corps à corps, avec échange de souffle, échange de sang. Vaincre l'ours, bien sûr, c'est signe qu'on est devenu un véritable adulte et un guerrier redoutable. Mais il y a d'autres rituels avant de partir au combat. Des guerriers germains, scandinaves, celtes, slaves, se livrent à des danses, des chants, mangent de la viande de l'ours, boivent du sang d'ours pour s'investir des forces de l'animal, ou bien, plus banalement, portent sur eux une peau d'ours déguisée en ours, ou comme amulette des dents ou des griffes d'ours. Bref, il s'agit de prendre sur soi la force de l'animal le plus fort des terroirs européens. Certains chasseurs, d'ailleurs, font un peu de même avant de partir combattre l'ours, chasser l'ours. La vénerie, pendant longtemps, a eu l'ours comme gibier préféré. L'ours et le sanglier, et pas du tout le cerf, qui est un animal peureux, qui fuit, qu'on n'affronte pas du tout en corps à corps, mais à la course. L'Église est horrifiée par tout cela, et elle n'a pas réussi à interdire la chasse comme elle le voulait, l'Église médiévale, mais elle a réussi à inverser le prestige des gibiers. Longtemps, ce sont l'ours et le sanglier, les gibiers nobles, royaux, princiers. À partir du XIIIe siècle, le cerf les a remplacés dans ce rôle.
Au Moyen-Âge, ce culte, cette vénération, c'est précisément cela à quoi l'Église chrétienne va s'attaquer ?
Oui, en plein Moyen-Âge chrétien, dans une large partie de l'Europe, il y a encore des traces, non seulement de superstition, l'ours mâle amateur de femmes et de jeunes filles, mais aussi des cultes rendus à l'ours ici ou là. L'Église avait réussi à éradiquer beaucoup de cultes païens, le culte des arbres, le culte des sources, le culte des pierres. Pour le culte de l'ours, elle a eu du mal. Il a fallu 500 ou 600 ans avant de venir à bout de ce culte qui venait de très haut, hein, qui, à mon avis, venait du paléolithique. Et donc, dès l'époque de Charlemagne, on commence à tuer un grand nombre d'ours, notamment dans la Germanie profonde, en même temps qu'on évangélise les populations. Ça, c'est la première stratégie utilisée par l'Église, tuer des ours. En Saxe, en Thuringe, dans la Germanie, dans les forêts de la Germanie profonde, on tue des ours. La deuxième stratégie, un peu plus récente, avant et après l'an 1000, c'est de diaboliser l'animal, en faire une créature du diable, soit en montrant comment le diable, grand ennemi des moines et des fidèles, aime à se déguiser en ours, soit en faisant de l'ours un attribut d'un grand nombre de vices et de péchés. Par exemple, dans le système des 7 péchés capitaux, l'ours est associé à 4 des 7 péchés. C'est une sorte de record. C'est l'attribut de la colère, de la paresse, de la lubricité et de la goinfrerie.
Pour Augustin, l'ours, c'est le diable pour saint Augustin.
Oui, saint Augustin qui est le père de toute la symbolique médiévale, il y a chez saint Augustin cette phrase terrible, « Ursus est diabolus », l'ours c'est le diable. Ça a contribué beaucoup à la mauvaise réputation de l'animal, bien sûr. Donc, tuer des ours, diaboliser l'ours, ensuite dompter l'ours. Ça, c'est le rôle de la géographie, c'est-à-dire des vides saints qui montrent que le saint, c'est-à-dire l'homme de Dieu, est plus fort que la plus forte des bêtes sauvages. Ça nous vaut toutes sortes d'histoires qui nous font rire aujourd'hui, mais qui sont efficaces au Moyen-Âge. Par exemple, un saint part en voyage, une mule porte ses bagages, un ours arrive qui mange la mule. Eh bien, le saint oblige l'ours à porter les bagages à la place de la mule qu'il a dévorée. Ou bien un saint est en train de labourer, comme toujours au Moyen-Âge, c'est un bœuf qui tire la charrue. Arrive un ours qui mange le bœuf, le saint oblige l'ours à tirer la charrue à la place du bœuf. Le saint est plus fort que la bête.
Oui, c'est cela. Là encore, Michel Pastoureau, le but est de montrer que l'ours n'est pas cet animal si fort qu'il l'était ou qu'il l'est à l'époque du Moyen-Âge dans les cultes.
Il est plus fort que lui, c'est le saint, l'homme envoyé par Dieu. Quatrième stratégie, très différente, ridiculiser l'ours. Et là, ça va être le rôle des jongleurs et des batteleurs. En général, l'Église au Moyen-Âge est hostile au spectacle d'animaux qui ont un peu à voir avec l'idolâtrie. Mais pour l'ours, elle a une certaine tolérance. Et alors, à partir du XIIe siècle, on voit sur les places de foire et de marché des montreurs d'ours avec des animaux enchaînés. Ils se déplacent. Ces animaux sont ridicules. Ils font des tours, ils dansent. On peut venir les toucher sans danger. Même les enfants s'en approchent. Donc, ça n'est plus la redoutable bête sauvage des époques précédentes. Et c'est le début d'une longue tradition, l'ours, animal de cirque en quelque sorte.
Au Moyen-Âge, c'est à cette époque aussi que l'ours est définitivement détrôné, si je puis dire, et que le remplace dans la position de roi des animaux, le lion.
Voilà, c'est la cinquième stratégie, installée sur le trône symbolique de roi des animaux, une créature qui n'est pas présente physiquement en Europe, donc sans danger de culte, le lion, qui est l'animal roi des animaux déjà dans les traditions orientales et certaines traditions gréco-romaines. Le lion, c'est l'animal des traditions écrites, donc pour l'Église, ça se manipule et se contrôle très bien, alors que l'ours était l'animal des traditions orales, c'était plus dangereux. Donc on peut dire que l'affaire est entendue vers la fin du XIIe ou le début du XIIIe siècle. On le voit très bien, par exemple, dans un ensemble de textes littéraires que nous appelons « Roman de renard », laboratoire pour l'historien des animaux que cet ensemble de textes de la fin du XIIe et du premier XIIIe siècle. Dans le roman de renard, le lion est déjà le roi des animaux et l'ours est devenu un animal dévalorisé, voire proprement ridicule.
Si vous le voulez bien, Michel Pastoureau, vous évoquez le roman de renard. Je vous propose de vous lire un petit extrait de l'un des passages du roman, Renard magicien, qui illustre tout à fait cette pauvre situation de l'ours au Moyen-Âge, bête ridicule. Dans le roman de renard, l'ours s'appelle Brun. Brun, dit renard, avancez. Par le roi et à sa prière, je vous ordonne de faire une culbute, vous y êtes expert. Brun comprit bien qu'il lui fallait le faire, car il ne saurait trouver d'excuse pour ne pas s'exécuter. Il se plaça au milieu, puis se prépara, arrangea son poil avec soin et se mit en état de faire une belle culbute. Il baissa la tête, vers la terre, puis continua le mouvement avec les fesses. Il tomba si lourdement à terre que son anus s'élargit et s'ouvrit. Il avait l'intestin si rempli qu'il faillit éclater. Et la culbute lui fut si pénible qu'il fut contraint malgré lui de péter devant tous. La salle entière en résonna et chacun en rit. « Belle culbute, dit la reine, que celle de celui qui sonne de la trompette avec son cul en l'exécutant. » Sur ce, elle fit se lever une bête qui avait bien 21 têtes et lui ordonna de faire une cabriole. C'est là une illustration de ce caractère tout à fait ridicule. Cet ours qui pète devant la reine, c'est bien malheureux pour lui.
Oui, et c'est une idée qui va avoir la vie longue parce qu'on va la retrouver dans les contes et dans les fables, chez La Fontaine par exemple, l'ours n'est jamais pris en très bonne part, il a perdu de sa force et il est devenu un animal sot, simpliste, qui fait des bêtises malgré lui, il est maladroit. Le pavé de l'ours par exemple est resté célèbre, voulant défendre son maître, il le tue maladroitement. C'est une tradition qui va traverser les siècles, mais en même temps vont perdurer d'autres traditions plus anciennes, notamment celle de l'ours mâle, amateur de jeunes filles et de jeunes femmes. On va la retrouver au début du XVIIe siècle, non pas dans un texte littéraire ou dans une fable, mais dans une histoire véritable qui s'est passée en Savoie dans les années 1605-1610.
Alors il faut que vous nous la racontiez, Michel Pastoureau, c'est l'histoire d'Antoinette Culet que vous évoquez maintenant.
Antoinette est une jeune bergère qui garde ses moutons dans la montagne. Elle a une quinzaine d'années et un jour, elle ne redescend plus au village le soir. On retrouve les moutons, mais pas la bergère. On pense qu'elle a fait une fugue, on la cherche partout. Elle a disparu, on ne la retrouve pas. Les parents sont désolés. Puis deux années passent, trois années passent, et un jour, des bûcherons qui étaient montés dans la montagne plus haut que d'habitude, s'approchant d'une grotte fermée par un rocher, entendent des cris. Ils enlèvent le rocher et ils découvrent une créature féminine vêtue de lambeaux, dans un état épouvantable, qu'ils délivrent au fond de sa prison, et elle commence à raconter son histoire une fois qu'on l'a redescendue au village. Elle raconte comment elle a été enlevée par un ours qui en a fait son épouse, qui l'a violée. Elle a accouché d'un être monstrueux mi-homme mi-ours, que le père, en voulant l'enlacer, a étouffé. Personne ne croit à son histoire, on pense qu'elle a fugué et qu'elle raconte des mensonges. Mais la nuit même, un ours descend dans les rues du village et réclame sa jeune femme. On le chasse et il revient trois nuits de suite. On comprend que l'histoire était vraie. Et on tue l'ours, qui naturellement était le plus grand qu'on ait jamais vu dans la vallée de la Tarentaise. La jeune femme est exilée dans un monastère loin, et l'évêque de Moutier en Tarentaise demande à un prêtre de son diocèse de raconter cette histoire qui est imprimée pour les contemporains. C'est une histoire vraie, cette jeune femme a été enlevée et violée par un ours. Et nous sommes pas au cœur du Moyen-Âge, dit dans l'Antiquité tardive, mais nous sommes au début du XVIIe siècle, sous le règne d'Henri IV.
Oui, c'est quelqu'un qui a témoigné de cette histoire. Comment comprendre qu'elle ait été rapportée comme une histoire vraie?
Oui, d'autant que les villageois interrogés ont témoigné que l'ours est venu la nuit pousser des cris comme s'il semblait réclamer qu'on lui rende sa prisonnière et pour lui son épouse. Je ne sais pas comment il faut l'interpréter. Au fond, le plus simple est d'y croire, nous aussi, après tout, pourquoi pas. Il y a une suite, si je puis dire, ou plutôt un écho au XIXe siècle. Mérimée a écrit dans les années 1866-67, je crois, une nouvelle qui s'appelle Loki, L-O-K-I. Nous sommes en Lituanie et une jeune femme, la veille de son mariage, est enlevée par un ours, conduite dans la forêt. On ne sait pas très bien ce qui se passe, puis elle est relâchée. Trois jours après, elle réapparaît. Le mariage a lieu. Et neuf mois plus tard, elle accouche d'un être qui semble normal, un enfant qui grandit, puis plus il grandit, plus il devient bizarre, adulte. On le nomme le comte Michel, et ce comte Michel a un comportement étrange, on comprend qu'il est fils d'ours en fait. Et c'est une histoire qui se termine de manière absolument terrifiante, que Mérimée a sans doute écrite pour faire peur aux dames de la cour de Saint-Cloud, de Compiègne, la cour de Napoléon III. Mais c'est un des plus beaux textes littéraires français, et c'est encore une histoire de femme enlevée et violée par un ours.
Alors Michel Pastoureau, à l'époque contemporaine, lorsqu'on pense à l'ours, c'est surtout à travers des figures de la littérature enfantine qu'on le fait. Winnie l'ourson, l'ours Paddington, Baloo, Rupert, Gros Nounours, Petit ours brun, la liste est longue de ces personnages qu'affectionnent les enfants. Il nous faut nous souvenir que tout ceci est lié à une naissance précise et bien datée, celle de l'ours en peluche, et dans laquelle c'est un président américain qui joue le premier rôle, Theodore Roosevelt.
Oui, nous sommes en 1902, au mois de novembre, le président américain Theodore Roosevelt, c'est quasiment un personnage de légende, c'est le plus aimé de tous les présidents américains, grand chasseur, et à un moment où il était en déplacement dans le sud des États-Unis, un jour où il avait chassé, il était bredouille, le lendemain bredouille, et le surlendemain bredouille, alors ses proches ont eu l'idée d'attacher un ourson à un arbre et d'attirer l'attention du président. Proie facile, mais le président, naturellement, n'a pas voulu tuer l'ourson, il l'a épargné. L'affaire s'est répandue. Et un fabricant de jouets de New York a eu l'idée de créer un jouet en feutrine ou en peluche pour commémorer l'événement. Il a demandé à la Maison Blanche s'il pouvait l'appeler Teddy, le diminutif de Théodore. Teddy Bear était né.
Donc Teddy Bear, c'est le premier ours en peluche.
Voilà, mais ça n'est pas vraiment le premier tout seul, parce que exactement au même moment, novembre 1902, dans la banlieue de Stuttgart, une jeune femme qui fabriquait des jouets en feutrine présente poussée par son neveu à la foire de Leipzig, le même objet, un ourson en peluche et feutrine, qui a un grand succès en Allemagne, donc des deux côtés de l'Atlantique, au même moment, sans qu'il y ait contact, l'ours en peluche est né. Le succès est énorme tout au long de l'année 1903. Cet ours en peluche, qui reste la vedette du bestiaire du jouet pour enfants, jusqu'à des dates assez avancées, même si au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, ce bestiaire s'est diversifié. Aujourd'hui, quand on se promène au moment de Noël, par exemple, dans les grands magasins, qu'on regarde le rayon des jouets en peluche, on voit que l'ours est redevenu la vedette parmi tous les animaux. Pour l'historien, c'est une belle histoire, parce que l'ours du Paléolithique partageait sa caverne avec l'être humain à certains moments, et au XXe et XXIe siècle, l'ours en peluche partage le lit du jeune nourrisson. Ça souligne que ça n'est vraiment pas un animal comme les autres. Put a chain around my neck and lead me anywhere. Let me be. Oh, let him be.
On se quitte au son d'Elvis Presley, lui aussi rendait hommage au célèbre Teddy Bear dans une chanson de 1957. Merci beaucoup Michel Pastoureau, je renvoie nos auditeurs au livre que vous avez consacré à l'ours, L'ours, histoire d'un roi déchu, paru au Seuil en 2007. Les animaux ont aussi leur histoire, une émission réalisée par Anne Pérez, avec à la prise de son Philippe Palares. Run your fingers through my hair and cuddle me real tight. Let me be, oh let him be. Ces émissions ont été diffusées pour la première fois sur France Culture les 12 et 19 juillet 2015. Vous pouvez les réécouter ou les télécharger sur le site de France Culture ou encore sur l'application Radio France.